Vous êtes sur RTL.
RTL.
Dès qu'on termine un bouquin, on a envie de recommencer le prochain.
J'aime bien l'auteur, j'aime bien ses romans, ses histoires. Et parfois, je m'y identifie un peu.
J'ai tout lu de Guillaume Musso, tous ses livres, je les ai tous. J'aime beaucoup cet auteur.
Le journal inattendu.
Pour moi, un bon livre, enfin, je me dis que je suis sur la bonne piste à partir du moment où les personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous les prédestinez pas forcément.
Quand ils prennent une forme d'autonomie.
Exactement.
12h30, 13h30.
À la base, on écrit des livres parce qu'on veut corriger les imperfections de la vie.
Le journal inattendu de Guillaume Musso avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Pour la 10e année consécutive, vous êtes l'auteur français qui a vendu le plus de livres avec 1,5 million d'exemplaires écoulés en 2020. 10 ans que vous tenez cette première place du podium. Ça mérite de s'y arrêter un instant et de vous entendre à ce sujet. Vous êtes dans toutes les maisons. Comment avez-vous fait pour en arriver là? 10 ans après, quel regard vous portez sur ce succès et surtout cette constance? Tous les Français vous connaissent et à la fois ne vous connaissent que très peu. Comme un mystère ou une pudeur, vous qui citez souvent Kundera, qui aurait aimé vivre de ses livres sans la notoriété. Pour décrypter le phénomène Musso, je vais commencer par vous demander de m'en dire un peu plus sur vous. Tous mes invités y passent, c'est l'autoportrait. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Alors Guillaume Musso, qui êtes-vous?
Alors, je suis lecteur et romancier, donc je suis explorateur, caméléon et magicien. Quand à l'âge de 11 ans, j'ai ouvert un roman pour la première fois, j'ai compris que je ne serai plus jamais seul. D'autres l'ont dit avant moi, celui qui ne lit pas n'a qu'une vie, alors que celui qui lit peut avoir 500 vies, 1000 vies, 5000 vies. Et c'est ce que je fais lorsque j'ouvre un livre, je me démultiplie, je m'arrache à la réalité pour devenir quelqu'un d'autre, je m'abstrais du monde pour y revenir plus riche de 1000 fragments d'existence. Depuis qu'à 17 ans j'ai terminé d'écrire ma première histoire, un nouvel infini s'est déployé devant moi parce que j'ai toujours eu l'impression que la réalité était trop corsetée, que les murs élevés autour de nous étaient trop nombreux, que notre passage sur Terre était trop court. C'est pour ça que j'écris des romans, pour ouvrir des fenêtres, faire rentrer de l'air, pour rendre possible l'impossible, pour accéder à l'intelligence par l'intermédiaire de l'émotion. Je suis donc lecteur et romancier, donc je suis libre. Car chaque fois que l'on cultive son imagination, on gagne des degrés de liberté, quelles que soient les contraintes qui nous entourent.
Là, on va essayer d'en savoir un peu plus, non pas sur vos 1000 ou 5000 vies, mais déjà sur la vie de Guillaume Musso. Mais d'abord, c'est l'actualité de ce samedi. C'était la surprise de la soirée d'hier, pas de reconfinement, mais quelques restrictions supplémentaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en France. Dès demain, tous les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés devront fermer. Nous serons en direct de Lille, à Euralille, où vous profitez de ces dernières heures pour faire un maximum de courses. Ce sont donc des milliers de commerçants qui seront au chômage partiel dès demain de manière inattendue. Ils sont reçus en ce moment à Bercy par le ministre de l'Économie. Comment le gouvernement compte-t-il soutenir ces commerçants? Marie Guerrier suit pour nous cette réunion. Dans ce journal également, pas de finale au mondial de hand pour les Bleus malheureusement, et en football, peut-être bientôt un nouvel entraîneur pour l'Olympique de Marseille. L'orage gronde donc sur l'OM et sur la France. Côté météo, alors qu'est-ce que ça dit ce week-end, Céline Dacosta?
Il n'y a pas d'orage, mais personne n'échappera aux averses aujourd'hui. Pas même la région PACA où les nuages commencent à arriver en ce moment. Et ces perturbations qui vont s'enchaîner aujourd'hui, on les doit à la dépression Justine. Elle est arrivée par l'ouest avec elle de bonnes pluies. Elles sont en train de gagner tout le flanc est. Elle apporte aussi de bonnes rafales de vent sur le littoral breton en ce moment, mais ces rafales concerneront toutes les côtes atlantiques et se renforceront un petit peu plus dans le sud-ouest cet après-midi. Conséquence de tout ça, 20 départements sont en vigilance orange. 5 départements vigilance vague submersion le long de l'Atlantique à cause de ces fortes rafales de vent et les autres pour crues dans le nord, nord-est et le sud-ouest. Les températures toujours douces pour la saison avec 10 degrés, c'est la plus basse pour Besançon cet après-midi. Il en fera 12 à Rouen, 13 à Brest et Paris, 14 à Biarritz, 15 à Marseille et Perpignan, 16 à Toulon et 17 la maximale est pour Bastia.
Merci Céline, on vous retrouve à 18h parce qu'à 13h, c'est vous Guillaume Musso qui faites la météo.
Avec
je crois
plaisir.
Qu'elle est prête.
Le journal inattendu sur RTL.
C'était une surprise, tant sur le fond que sur la forme. Jean Castex n'a finalement pas annoncé de reconfinement hier soir, seulement quelques restrictions supplémentaires. La France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne et dès demain, tous les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés resteront porte close jusqu'à nouvel ordre. Il vous reste donc 5 heures à peu près pour faire vos courses. Nous retrouvons Victorien Villaumin, notre correspondant à Lille. Victorien, vous êtes à Euralille, qui est l'un des plus grands centres commerciaux de France, et on peut dire que c'est le rush depuis ce matin.
Le centre commercial est bien rempli. Depuis une heure, les clients sont même filtrés. Et dans certaines boutiques, il y a de belles files d'attente qui s'allongent. Julien est avec ses deux enfants.
On est venu avant la fermeture normalement de demain des magasins d'Euralille. Le magasin Lego essentiellement, et puis on profitait pour faire un dernier tour. On fait quasi nos courses que dans les centres commerciaux. On est à côté, et puis c'est plus le côté agréable, se promener en même temps.
Alors pour Julien, la fermeture à venir du centre commercial sera gérable. Pour Maria, en revanche, c'est un peu plus un déchirement.
Oui, ça va me manquer. Ça va beaucoup me manquer. C'est pour ça que c'est mon dernier jour d'achat, donc je vais me faire plaisir. Ma deuxième démarche, solde. Donc le menu d'achat, les vêtements d'hiver. Pour voir si on peut faire des petites affaires.
Marc aussi vient profiter une dernière fois des 120 magasins, parce que pour lui, ce genre d'endroit immense a de vrais atouts.
Il y a aussi un côté pratique et confort. On voit la météo, aujourd'hui par exemple il pleuvait. On n'a pas du tout envie d'aller faire les magasins à l'extérieur, on va privilégier les magasins de centres commerciaux. En plein hiver, on préfère être au chaud personnellement.
Et comme Marc, beaucoup de clients sont venus tôt ce matin pour croiser le moins de monde possible.
Le reportage de Victorien Villaume au centre commercial Euralille pour RTL. Les commerçants concernés par ces nouvelles restrictions rencontrent en ce moment en visio le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Marie Guerrier, vous suivez cette réunion pour RTL. Comment le gouvernement compte-t-il cette fois soutenir les commerçants qui seront au chômage partiel, donc dans quelques heures ?
Eh bien, en proposant les aides financières déjà mises en place lors des précédentes fermetures de magasins au printemps et à l'automne, à savoir le fonds de solidarité, notamment pour payer les loyers qui sont 15 à 20% plus chers dans les centres commerciaux. Il y a aussi les prêts garantis et puis la prise en charge par l'État du chômage partiel. En moyenne, un centre commercial, c'est 560 emplois. Les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés comptent à minima 40 magasins et services. Ça peut aller jusqu'à 80, 150 magasins pour les plus grands. 396 centres commerciaux vont fermer demain, selon le ministère de l'économie. 25 000 commerces en tout. Alors, l'année 2020 avait déjà été très impactée, moins 28% de fréquentation, moins 17% rien que pour le mois de décembre, malgré la réouverture post-confinement et les achats de Noël. Le mois de février est traditionnellement le mois le plus calme de l'année dans les commerces, mais ensuite, personne ne sait quand le gouvernement décidera d'une réouverture.
Merci Marie Guerrier. Guillaume Musso, vous étiez soulagé hier soir de voir qu'il n'y aurait pas de reconfinement.
Oui, je vous mentirais en disant le contraire. On a vu que c'était pas les scientifiques qui gouvernaient, mais le politique.
Même si un reconfinement donc n'a pour le moment pas été décidé, la France reste sous pression face à l'épidémie de Covid-19. Hier, près de 23 000 nouvelles contaminations ont été détectées et 271 personnes ont été admises en réanimation. Dans cette course contre la Covid, cette bonne nouvelle, l'Union européenne vient de donner son feu vert au vaccin du laboratoire AstraZeneca et demande avec fermeté qu'il assure en temps et en heure ses livraisons. Le patron d'AstraZeneca promet que 3 millions de doses seront envoyées en France dans les tout prochains jour. Ce vaccin est le troisième autorisé par l'Union européenne après ceux de Pfizer, BioNTech et de Moderna qui, eux, peinent à assurer leur livraison justement. Et puis cette info du service justice d'RTL, les policiers ont mis fin hier soir à une fête clandestine à Collégien, en Seine-et-Marne. Les forces de l'ordre ont été prévenues vers 21h par des voisins qui entendaient de la musique provenant d'un hangar. Bilan de la soirée, 81 verbalisations. 4 personnes susceptibles d'avoir participé à l'organisation de cette fête clandestine sont convoquées cet après-midi par la police pour une audition. Un bon début de roman, hein, ça ?
Oui.
Les fêtes clandestines, malheureusement, qu'on voit se multiplier depuis quelques jours, quelques semaines. Vous comprenez que ce soit arrêté dès que possible.
Hein. Bien sûr, bien sûr.
La suite du journal avec ce périple meurtrier. L'ingénieur de 45 ans au chômage qui aurait tué 3 personnes dans le Haut-Rhin, dans la Drôme et en Ardèche n'a donné aucune explication au cours de sa garde à vue. Il a été mis en examen. Ce que l'on sait, c'est que les 3 victimes avaient toutes un lien avec son parcours professionnel, qu'elles soient cadres dans les ressources humaines ou employées de Pôle emploi. À Valence, justement, la salariée de Pôle emploi qui a été froidement exécutée jeudi s'appelait Patricia. Nos confrères d'M6 ont recueilli le témoignage bouleversant de sa demi-sœur. Écoutez.
J'ai su qu'il y avait eu quelque chose à Pôle emploi. J'ai dit, mais ma sœur, elle travaille là-bas. Donc j'ai appelé ma maman. Et quand j'ai appelé ma maman, je l'entendais pas. Et j'ai entendu après un petit oui. Et là, j'ai su que c'était ma sœur et... Voilà, j'ai su que c'était ma sœur qui était plus là, quoi, qu'on l'a tuée gratuitement alors qu'elle faisait son travail. Et...
c'est arrivé à plein de personnes, parce qu'il y a des attentats. Donc. Mais c'est difficile, parce que quand on voit les images, quand on voit sa famille à la télé, on se dit, mais ça m'arrive à moi aussi. Voilà. Mais elle était très investie dans son travail, elle aimait ce qu'elle faisait, en tout cas. Elle aimait ce qu'elle faisait. Ma maman, elle est très très mal. Enfin, toute la famille, on est tous pas bien. Puis on comprend pas, quoi. On pense que ça peut arriver aux autres, puis ça nous arrive à nous.
Témoignage très fort, hein, recueilli par nos confrères d'M6 et toujours au volet judiciaire. Sachez que 9 jeunes sont présentés aujourd'hui à un juge d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression de Youri, 15 ans. Ce dernier a été roué de coups dans la soirée du 15 janvier à Paris. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Les sports, avec tout d'abord du hand. Le parcours de l'équipe de France au Mondial s'arrête là. Les handballeurs français n'ont rien pu faire hier en demi-finale contre la Suède. Ils ont perdu 32-26. Dimanche après-midi, l'équipe de France tentera tout de même de décrocher la médaille de bronze de ce mondial face à l'Espagne. En foot, Lyon prend provisoirement la tête de la Ligue 1. L'OL, vainqueur de Bordeaux hier 2-1. Match à suivre aujourd'hui de cette 22e journée. Montpellier-Lens à 17h, Marseille-Rennes à 21h. Marseille, qui va devoir trouver un nouvel entraîneur, sauf surprise, André Villas-Boas devrait quitter le club à la fin de la saison, Hugo Hamelin.
Oui, dès le mois de juin, c'est une nouvelle page du grand roman de l'OM qui devra s'écrire sans André Villas-Boas. L'entraîneur a affirmé hier en conférence de presse qu'au vu des résultats actuels, l'OM pointe à 13 points du podium, et bien qu'il n'attendait plus de prolongation de contrat, et il promet donc de quitter le navire. En sous-titre, on peut tout de même y lire un appel du pied à la direction du club. Cette déclaration publique, c'est aussi un moyen de relancer des négociations, un peu comme un auteur pourrait le faire avec son éditeur. Mais cette annonce tombe à un moment crucial, alors que l'OM vient d'enchaîner 3 défaites de suite en Ligue 1. On est très loin de son époque glorieuse quand Guillaume Musso, jeune étudiant à Nice, pouvait rêver des exploits de la bande à Papin. Non, là, l'OM s'enfonce à chaque match un peu plus dans le marasme. D'ailleurs, les supporters ont prévu de manifester devant le stade Vélodrome ce soir, de manifester leur mécontentement devant un stade toujours vide à cause du Covid.
Hugo Hamelin, ne mettez pas trop le moral de mon invité dans les chaussettes alors qu'on commence tout juste cette émission, s'il vous plaît.
C'est vrai que cette année, c'est très très dur de regarder les matchs de l'OM, je les regarde avec mon fils et à chaque fois on souffre beaucoup beaucoup, mais on reste supporter néanmoins.
Oui, grand, ah, donc Guillaume Musso, ouais. Pour ceux qui ne le savent pas encore, grand supporter de l'OM d'ailleurs. Vous l'aviez dit à Cyprien Sini, c'était en 2015 sur l'antenne d'RTL et vous lui aviez fait cette confidence.
Et il a le bon goût d'écouter le multiplex de foot le samedi soir sur RTL. Guillaume Musso, bonjour.
Bonjour Cyprien, bonjour à tous. Je suis assez fan de ça, je l'écoute, depuis des années. Et c'était sympa de vous faire un petit clin d'œil en fait à travers le roman.
Et merci Hugo Hamelin, et voilà pour l'actualité de ce samedi. Alors on revient à janvier 2021. Ça fait 10 ans cette année que vous êtes, Guillaume Musso, sans interruption, l'auteur français qui vend le plus de livres. En 2020, c'était 1,5 million d'exemplaires. 10 ans, c'est une phase, une décennie. C'est une histoire qui commence à sérieusement durer là. Quel regard vous portez déjà sur ce succès?
Non mais c'est assez incroyable, et c'est une gratitude d'abord incroyable par rapport aux lecteurs qui m'ont suivi à travers des ouvrages très 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 différents. Les romans que j'écrivais il y a 10 ans, 15 ans n'ont plus rien à voir avec ceux que j'écris aujourd'hui, et pourtant les lecteurs me sont fidèles, acceptent à chaque fois d'aller vers un voyage différent. Et maintenant, il y a même voilà, il y a des générations, c'est-à-dire que les romans circulent hein, au sein de la famille, des lecteurs ou des lectrices qui m'ont découvert en 2004, maintenant ont des enfants qui sont ados et qui me lisent à leur tour. Donc c'est là où on voit, lorsqu'on arrive à faire une jonction comme ça entre les générations, ouais, c'est assez incroyable, et c'est toujours bien de voir que ces romans-là, alors les miens et d'autres, hein, mais les best-sellers à un moment fédèrent des gens très 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 différents, de tous les âges, de tous les milieux, parce que les gens ne vous lisent pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que certains viennent pour le plaisir du suspense, de tourner les pages, d'autres viennent parce que le thème que vous traitez les intéresse, et moi j'écris toujours mes romans à un double niveau de lecture. Le premier niveau, c'est le plaisir de lire, de tourner les pages. Un deuxième niveau, c'est traiter à chaque fois un thème différent pour faire se poser des questions. Je suis très attaché, moi, en fait, au divertissement. Le divertissement, c'est noble. Vous prenez l'étymologie de divertir, ça veut dire en fait faire tourner à l'extérieur de soi, c'est-à-dire c'est sortir de soi, de sa vie. Et lorsqu'on lit, j'aime ça moi en tant que lecteur, c'est mettre ma vie entre parenthèses pendant un moment pour aller ailleurs.
Le plaisir, c'est de se dire qu'une personne va avoir hâte de rentrer chez elle le soir pour
Absolument. Retrouver
un nouveau livre,
pour moi,
par exemple.
Un bon roman, c'est un roman
à la maison pour
qui rend plaisir, qui rend heureux celui qui le lit. Et moi, voilà, ce que j'aime quand je suis plongé dans un bon livre, c'est ça, c'est de me dire, ah oui, ce soir, peut-être à la place d'écouter Netflix ou RTL, là, je vais ouvrir un livre. Voilà.
On peut dire que c'est complémentaire. Il y en a pas eu un, ou allez, peut-être deux, avec un coup de chance. Là, ça fait 10 ans que ça dure, donc il y a une recette, quand même. C'est quoi la recette du succès ?
La seule recette, vraiment, c'est d'écrire le roman que j'aimerais lire en tant que lecteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me mets dans la position du conteur, je me raconte l'histoire à moi-même. J'écris mes romans dans l'ordre, dans l'ordre chronologique. Et donc, il y a ce désir vraiment d'être surpris, de jamais savoir exactement où le roman va me mener. Il y a le fait d'essayer de prendre du plaisir à l'écriture, mais sinon, il n'y a pas d'autres recettes. Il n'y a surtout pas de cases à cocher. Moi, le succès, je ne l'ai pas cherché. C'est-à-dire que, voilà, c'est quelque chose qui m'est presque tombé dessus. J'essaye de m'en montrer digne. J'essaye de pas écrire toujours le même livre. Ceux qui pensent qu'il y aurait des recettes, des checklists, se trompent. Et à chaque fois d'ailleurs que ça a été essayé dans l'histoire de l'édition, généralement ça a été un échec.
Ça n'a pas fonctionné. Vous êtes dans toutes les maisons, vous l'avez dit. Mais vous êtes aussi très pudique. Les écrivains le sont souvent d'ailleurs. Quelle image d'homme vous souhaiteriez que l'on ait de vous, Guillaume Musso ?
En fait, c'est vrai que lorsqu'on commence à écrire à l'adolescence, c'est quelque chose plutôt qui est introverti, intime. C'est pas le désir de se mettre en avant. Et ma plus grande fierté, c'est lorsque je rencontre des lecteurs lors des séances de signature, les lecteurs vous posent des questions non pas sur votre vie. J'ai jamais posé de questions sur ma vie, mes enfants. Et par contre, ils vous posent des questions sur vos personnages, ils vous posent des questions sur vos histoires, ils vous posent des questions sur comment vous écrivez les livres, d'où vous viennent les idées.
Donc ça vous dérange que je vous pose une question sur l'homme que vous êtes, par exemple ? Ça vous
dérange pas, mais l'homme que je suis,
moi, j'ai envie de comprendre qui vous êtes.
N'est pas plus intéressant que mes héros.
C'est intéressant, parce que vous écrivez quand même des best-sellers depuis 10 ans.
Oui,
donc
mais
ça serait
très, très vantard de ma part de dresser comme ça un portrait de moi. Je crois que, je suis tout entier dans mes livres. C'est-à-dire que, alors, vous savez, c'est cette fameuse phrase, c'est tous mes personnages sont moi, mais je ne suis pas mes personnages. Mais en tout cas, je pense que la quinzaine de livres que j'ai écrits jusqu'à présent donne un portrait assez juste de qui je peux être, pour qui c'est lire entre les lignes.
Voilà, il faut juste savoir quoi piocher pour savoir ce qui est le vrai du faux. Restez avec nous sur RTL. Un de vos romans va bientôt être adapté en série, Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit, une grosse production qui se prépare. A tout de suite.
9h30 de Guillaume Musso
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Pour votre journal inattendu, vous avez choisi, Guillaume Musso, de nous faire écouter Morning Passage de Philippe Glass. C'est la bande originale du film The Hours, adaptation du roman de Michael Cunningham.
C'est parfait pour écrire. Philippe Glass, c'est un compagnon depuis 20 ans. Oui, moi, j'aime bien travailler en musique et ça aide à poser des atmosphères, ça aide. Il y a une sorte de réflexe pavlovien. Voilà, Glass, je l'écoute lorsque j'écris. Donc je mets ça, ça me remet dans une ambiance de travail que je connais, qui est sécurisante. C'est un vieux compagnon de route.
Plusieurs de vos romans ont déjà été adaptés au cinéma. C'était autour de La jeune fille et la nuit, aux éditions Kalman-Lévy, qui va bientôt devenir une série, une grosse production. Alors vous devez avoir beaucoup de sollicitations pour acheter les droits de vos livres. Pourquoi cette fois ça a marché ?
Parce qu'il y avait la perspective effectivement de tourner à Antibes, qui est ma ville natale. C'est-à-dire que ce roman, c'est le premier roman que j'ai fait qui se passe intégralement dans le sud de la France et qui éveillait chez moi voilà des souvenirs de mes 20 ans et donc c'est un livre voilà qui me tient beaucoup à cœur et là il y avait la possibilité de le faire à la fois en anglais parce que l'histoire se passe dans un campus international donc les élèves parlent entre eux anglais mais de le tourner effectivement chez moi. Et là, la forme de série, c'est-à-dire un 6x52, hein, oui. Est bien parce que ça permet à la fois de creuser les personnages, de prendre son temps. Donc, voilà, c'était... Je pense que... Et puis, c'est fait par des gens sérieux. Je participe pas... Moi, j'ai donné ma version. On me propose beaucoup de travailler à la fois sur des scénarios, originaux. Le problème, c'est que quand vous avez pris l'habitude de la liberté totale de création, retravailler en équipe je pense peut-être que j'y viendrai un jour, mais je pense que j'ai encore d'abord quelques romans à écrire.
Donc vous n'interviendrez pas trop finalement sur l'adaptation. Ça y est, ils ont le livre. Pour ceux qui le connaissent, il y a de quoi faire.
On me les envoie. Je les lis un peu, mais c'est fait par des gens qui en garderont l'esprit, et c'est pour ça que j'ai dit oui.
La critique littéraire n'a pas toujours été tendre avec vos premiers romans, et puis est arrivée La vie secrète des écrivains. Oui. Vous avez obtenu alors, ça vous fait sourire, vous avez obtenu alors des éloges du métier, vous avez été invité sur les plateaux d'émissions littéraires. Est-ce que cette reconnaissance a changé quelque chose pour vous ?
Honnêtement, non, parce que je crois que depuis que j'ai 15 ans, je me suis vraiment construit en me disant que être tributaire du regard des autres, c'était très, très, très dangereux. Le groupe m'a toujours fait peur. Lorsqu'on est ado, vouloir se conformer à l'approbation du regard des autres, j'ai pris très tôt conscience que c'était un danger. J'ai gardé ça, c'est-à-dire qu'une bonne critique, tout comme une mauvaise, voilà, vous rend heureux ou malheureux 5 minutes, mais ça ne change pas votre vie, ça ne change pas la vision que vous avez de votre travail. Et surtout, ça vous rend plus libre, franchement, de ne pas dépendre de ça. Je pense, voilà, oui, peut-être ça a fait plaisir à ma mère, voilà. Donc, comme ça fait plaisir à ma mère, ça m'a fait plaisir à moi aussi, voilà.
Avant d'en arriver là, des succès, des adaptations, il y a eu une histoire forte entre vous et Bernard Fixeau, fondateur des éditions Ixo. Vous avez publié avec eux 14 livres. C'est ça aussi la vie d'un écrivain, une relation fusionnelle entre un auteur et son éditeur.
C'est toujours compliqué parce qu'en français, il y a le même mot pour désigner la maison d'édition et pour désigner l'éditeur, c'est-à-dire la personne qui travaille le texte, enfin qui relit vos textes. Moi, depuis 2004, effectivement, je travaille avec une éditrice qui s'appelle Caroline Lépée et effectivement, mes romans sont, j'écris un ou deux chapitres et j'envoie, je fais lire à la fois à ma compagne, à mon éditrice, à un moment à ma mère aussi, maintenant un peu moins, mais j'avais ces trois regards de gens qui m'ont connu avant le succès. Donc c'est toujours bien d'avoir des retours de gens qui ne prennent pas de gants et qui parfois peuvent vous dire non mais là tu peux faire mieux, ce chapitre est un peu paresseux. Donc oui, je sais, ces trois regards sur mon travail sont importants.
Et quel regard vous portez sur cette histoire avec les éditions Ixo aujourd'hui ? Puisque je rappelle que oui. Ça s'est arrêté et que vous êtes depuis avec les éditions Kalman-Lévy.
Une très belle histoire, oui, non, des années incroyables, des moments de bonheur, de construction.
Aucun regret que ça se soit arrêté ?
Non,
c'était votre choix ?
Dans la vie, il ne faut rien regretter. C'était une très belle partie de ma vie et là ces trois nouveaux romans, enfin les trois derniers chez Kalman-Lévy, c'était autre chose, c'était d'autres livres, c'était une sorte de ce que j'appelle ma trilogie des écrivains.
Indépendamment de vos maisons d'édition, vous êtes connu aussi pour être un incroyable créateur d'intrigues avec des histoires à multiples rebondissements. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre tête, Guillaume Musso, je vous propose une question-réponse.
Oui.
très rapide, vous me répondez du tac au tac. Vous écrivez un plan très précis sur papier avec plein de détails avant de commencer un livre ou tout est dans votre tête ?
Très précis, mais je ne le suis pas forcément.
Vous jouez beaucoup avec le lecteur, dans le même livre, d'une histoire à l'autre, d'une époque à l'autre. Vous faites un repérage physique de tous les lieux que vous évoquez ou pas ?
De la plupart, pour retenir vraiment des petits faits saillants qui contribuent un petit peu à une manière impressionniste à créer une atmosphère.
Parce que vos lecteurs vont vérifier, hein, souvent.
Parfois, oui.
C'est pour
absolument.
Ça que je demande ça. Vous parvenez à décrocher, parfois, dans votre tête, ou à tout moment, même les plus incongrus, vous êtes capable de prendre des notes parce qu'une idée vous vient.
J'ai appris à jamais travailler chez moi. Donc, tous les matins, j'amène mon fils et ma fille à l'école et je travaille dans un atelier jusqu'à 20h. Donc, pendant cette période-là, c'est 100% et après, c'est 100% par rapport à mes enfants.
Donc
je parviens, les enfants parviennent
grâce
à vous faire décrocher parce que les enfants, surtout les enfants jeunes, ont besoin de votre attention immédiatement. Lorsqu'ils vous demandent un truc, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et donc, ça vous force à être complètement à eux, avec eux.
Donc merci les enfants, vous aidez papa
absolument,
à décrocher.
Absolument.
Est-ce que vous avez aujourd'hui la vie dont vous rêviez ?
Oui, j'ai la chance, moi, de faire ce que je rêvais de faire quand j'avais 14-15 ans. Quand j'avais 14-15 ans, mes héros, c'était Stephen King, Barjavel, Marcel Pagnol. Et donc, je me disais, si un jour j'arrive, moi aussi, à raconter des histoires et avoir des lecteurs qui attendent mes livres, ça serait incroyable. Donc, dans cette optique-là, oui.
Parmi vos thèmes de prédilection, la solitude, et comment l'affronter ? Est-ce que vous vous sentez encore parfois seul, Guillaume Musso ?
Oui, parce que l'écriture prend du temps. Moi, je travaille tous les jours, donc c'est 10 heures par jour, un peu moins parfois, mais assez seul. Et c'est une solitude choisie, hein, et qui contraste après parfois avec un mois de promo où d'un seul coup, à la fois vous rencontrez des gens, vous rencontrez des lecteurs et vous passez d'un trop plein, enfin d'un très vide à parfois un trop plein. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant parfois, mais je pense qu'il faut passer par la case. Les romans ne s'écrivent pas seuls. Ils demandent de la sueur, ils demandent du temps. Et donc, c'est une case qu'on doit absolument, voilà, sur laquelle on doit absolument passer. Mais c'est vrai qu'avec le temps, la solitude pèse de plus en plus. Ouais.
Dans un instant, le rappel des titres et votre reportage inattendu. On va parler de l'artiste Invader. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Guillaume Musso
avec Ophélie Meunier sur RTL.
RTL, il est 13h.
Le journal inattendu de Guillaume Musso.
13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
Scénario imprévu hier soir. Conseil de défense à 18h, prise de parole du Premier ministre dans la foulée et cette décision à retenir. Pas de reconfinement pour le moment. Donnons-nous une chance de l'éviter. Ce sont les mots de Jean Castex qui a tout de même annoncé de nouvelles restrictions. Fermeture des frontières à l'extérieur de l'Union européenne et à l'intérieur de l'Hexagone, fermeture de près de 400 centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés dès demain. Repousser un éventuel reconfinement à dans quelques jours, une décision que ne comprend pas une partie des professionnels de santé. Le professeur Annan, chef du service de réanimation de l'hôpital de Garches, était l'invité de Stéphane Carpentier dans la matinale week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne partage pas du tout l'avis du gouvernement.
C'est une mesure dont je n'attends pas qu'elle ait un impact significatif. Mmh. Si on compte que sur cette mesure-là et la fermeture partielle des frontières, pour se dire ça va permettre dans 10 jours, avec les vacances scolaires, de recontrôler l'épidémie, c'est un pari très risqué. On peut toujours tout faire, il faut connaître le prix. On sait des modélisations de la première vague que si le confinement avait été opéré une semaine avant, qu'on aurait sauvé probablement une vie sur deux. Donc on sait que la prise de retard du confinement a un impact sanitaire considérable et aussi un impact sociétal. Lors de la première vague, les pays qui sont sortis mieux sur le plan sanitaire et sur le plan économique et social sont ceux qui ont pris les mesures le plus vite.
Dans la course à la lutte contre le Covid-19, un troisième vaccin vient d'être autorisé par l'Union européenne, celui du laboratoire AstraZeneca. L'Union européenne qui met la pression pour qu'il assure correctement ses livraisons, alors qu'un bras de fer a lieu en ce moment avec les laboratoires Pfizer-BioNTech et Moderna. Et puis cette info du service justice d'RTL, après avoir été prévenu par des voisins qui entendaient de la musique, des policiers ont mis fin à une fête clandestine hier soir en Seine-et-Marne. 81 personnes ont été verbalisées, dont 4 qui sont soupçonnées d'avoir participé à l'organisation de cette fête clandestine et qui seront auditionnés par la police cet après-midi. La garde à vue de l'homme de 45 ans qui aurait tué 2 cadres des ressources humaines et une salariée de Pôle emploi a été levée. Il a été mis en examen. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi ni comment il a pu tuer de sang-froid ces 3 personnes. En foot, les matchs à suivre de cette 22e journée de Ligue 1, c'est Montpellier-Lens à 17h et Marseille-Rennes à 21h. Après sa victoire hier, Lyon prend provisoirement la tête du classement. Vous retrouvez bien sûr Christian Olivier à 18h30 dans On refait le match, suivi de RTL Foot à partir de 20h. Et le temps, la météo, à 13h, c'est avec notre invité. Alors c'est à vous, Guillaume Musso.
Alors c'est un temps pluvieux qui nous attend aujourd'hui avec des averses soutenues qui ont déjà bien arrosé l'ouest du pays ce matin et qui seront présentes cet après-midi sur la moitié est. Une nouvelle perturbation arrive malheureusement sur la Bretagne avec là aussi de bonnes pluies et du vent. Conséquence de cette dépression, Justine, 20 départements sont toujours placés en vigilance orange. Les températures, elles, sont toujours douces et même printanières par endroits, comme en Corse, où la moyenne sera de 17 degrés. Très doux aussi sur les remparts d'Antibes, que j'empruntais en mobylette pour me rendre au lycée et que j'aime énormément, avec 16 degrés cet après-midi, mais malheureusement aussi avec l'arrivée de la pluie.
Il y a Antibes, que vous aimez beaucoup. Il y a aussi un artiste qui vous intrigue, c'est Invader, que vous
absolument
mentionnez d'ailleurs, page 13 de La vie est un
c'est
roman.
Vrai.
Vous qui nous écoutez avez sûrement déjà croisé une de ses œuvres en ville. Au détour d'une rue, ce sont ces petites mosaïques de carreaux cimentés comme des pixels. Un engouement s'est créé autour de cet artiste. Ils sont plus de 155 000 à collectionner aujourd'hui les fresques d'Invader grâce à une application. Le principe, en trouver un maximum pour engranger des points et être bien classé parmi les fans. Qu'est-ce qui explique le succès de cet artiste mystérieux? C'est votre choix de reportage inattendu, Guillaume Musso. Il est signé Agnès Bonfillon.
C'est magnifique, hein, franchement.
Oui, le vert avec le jardin derrière, ça embellit la ville.
Là, c'est impressionnante. 20 mètres de long, une bonne cinquantaine de Space Invaders.
En pleine semaine, à l'heure du déjeuner, ils sont nombreux à venir admirer la fresque à peine rénovée d'Invader juste à la sortie du métro Belleville. C'est sûr, vous en avez déjà vu, ce sont des pixels en mosaïque, les tout premiers personnages de jeux vidéo, très basiques. On les flash comme on collerait une vignette dans un album Panini.
Pour flasher, je vise, je prends une photo et j'ai gagné 50 points. Je suis ravi. Je suis classé 2552e. Très fier.
Invader installe ses œuvres dans de nombreuses villes françaises, à l'étranger également. Ça tombe bien, quand on est accro, c'est partout, tout le temps.
J'étais en vacances en Espagne, à Séville. J'ai fait des pieds et des mains avec ma femme pour qu'on aille jusqu'à Malaga trouver quelques spécimens. Ça nous a fait un énorme détour, on a failli rater l'avion.
Encore plus accro que Nicolas, bien sûr que ça existe.
On gagne des points et puis on monte dans le classement. C'est l'aspect collection.
Archie Filou, c'est son nom sur l'appli, est incollable sur le sujet. Avant de partir, il fait un gros travail de préparation sur Internet.
Tiens, mais là, je reconnais ça, ça, ça. C'est à telle hauteur, c'est à ras du sol, c'est premier étage, plus haut. Donc, on peut noter précisément l'adresse et je prépare ça pour toutes les mosaïques que je dois faire dans la ville.
Et quand le grand jour arrive, dernier coup d'œil au matériel.
Le smartphone, les cartes papier ou les adresses papier, le Google qui est dans le smartphone, un chargeur de batterie, parce que c'est rien de plus emmerdant de se retrouver avec 5% de batterie alors qu'on doit encore rester pendant une heure sur place.
Mais au fait,
vous, monsieur Musso, est-ce que vous flashez? Flash forcené, parce que vous voulez toutes les avoir. Soit vous envoyez un dans la rue, vous sortez votre smartphone, clic-clac.
Alors moi, c'est vrai que ça a été un moyen de découvrir Paris autrement. Notamment, je fais ça avec mon fils. Et c'est moi, Invader, c'est la culture que j'aime. C'est-à-dire, c'est celle qui s'adresse au plus grand nombre, mais qui n'est pas formatée. J'aime aussi sa vision. C'est-à-dire, il revisite vraiment la culture pop de ces 40 ou 50 dernières années. Et ça fédère des gens très, très, très différents. Tout le monde y trouve un intérêt, et donc c'est assez son projet quand même d'invasion. Vous savez qu'on en trouve même, on trouve même un petit invader dans la station spatiale internationale.
C'est
l'artiste qui a l'œuvre d'art qui est à la fois la plus haute et je crois aussi la plus basse, parce qu'il en a mis une aussi sous l'eau dans la baie de Cancun.
Et le réalisateur de cette émission se reconnaît puisqu'il passe aussi une partie de ses week-ends avec son fils à aller flasher, à faire tout Paris et à marcher 10 km pour aller flasher Space Invader. Votre plaisir, votre vie a changé évidemment avec ce succès, financièrement aussi. Votre plaisir a été d'investir dans l'art, je crois.
Oui, c'est vrai, j'aime ça. Alors pas simplement acheter, regarder des expos, ça m'irrigue aussi beaucoup. Enfin, c'est pas directement un tableau qui va inspirer un roman, mais c'est la fréquentation comme ça d'œuvres d'art, de lire des bios d'artistes qui finalement sédimentent et qui au bout d'un moment, rejaillit dans votre écriture.
Là, il y a une application donc entre Invader et ses fans. Vous, le contact avec vos lecteurs, avec votre communauté, vous l'avez surtout au moment des dédicaces. Comment vous les viviez, ces dédicaces, pardon, et est-ce qu'elles vous manquent aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, elles me manquent. Ça, c'est évident. Non, c'était des moments d'échange qui venaient justement donc après ces mois de solitude, d'écriture. Ouais. Et là, d'un seul coup, vous avez effectivement le retour de lecteurs. Moi, j'ai toujours pensé qu'un roman, c'était une contribution à part égale entre celui qui l'écrivait et celui qui lisait. Donc, c'est un roman n'existe
vraiment. À part égale, vous dites.
Mais oui,
vous en faites beaucoup quand même.
Paul Auster qui dit ça. Mais je suis d'accord avec lui. C'est un roman n'existe vraiment qu'à partir du moment où il est lu, où il est discuté, où il est aimé, détesté. Mais à partir du moment où vous avez un retour, pour moi, un manuscrit qui resterait dans un tiroir serait pas du tout un roman abouti, vous voyez.
Côté cinéma, vous aimez Claude Sautet, Un cœur en hiver, ou encore Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, Difficulté des relations hommes-femmes, ouais. Noirceur parfois. Ça vous inspire tout cela quand on vous lit, en tout cas, on a l'impression.
Ce que j'aime beaucoup, c'est cette confusion des sentiments, c'est le fait de voilà, on est des êtres compliqués et ça fait écho au roman. Kundera disait « L'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. » Oui, l'être humain est complexe. On est traversé d'aspirations contraires, de désirs parfois contradictoires, de tourments, de noirceur, de médiocrité, de grandeur aussi. Ça, je me retrouve beaucoup dans la phrase de Simenon. Simenon disait « Voilà, moi je veux toujours comprendre, mais ne pas juger. » Et lorsque vous écrivez, c'est pas mal de garder ça à l'esprit.
Dans un instant, votre invité nous rejoindra, Guillaume Musso. Vous avez choisi de recevoir le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, édifiant. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Guillaume Musso, avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu de Guillaume Musso,
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et votre invité est avec nous, Guillaume Musso. Voilà quelqu'un qui parle mieux que personne de résilience. C'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Bonjour Boris Cyrulnik, merci beaucoup d'être avec nous. Alors qu'on pensait d'ailleurs qu'on allait être reconfiné, finalement non, mais peut-être que ça va arriver dans quelques jours. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment trouver un an après les ressources pour continuer à être résilient face à cette épidémie qui dure.
Alors, je crois qu'on ne peut pas être résilient, mais on peut devenir résilient. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait un an qu'on est bousculé, freiné, confiné, et que la première réaction au cours du premier confinement a été très gaie. Tout le monde s'est très bien adapté, il y avait beaucoup d'humour, on se téléphonait, on inventait des rituels, on remerciait les soignants le soir à 8h, et on pensait qu'on allait triompher du virus. Et là, un an après, on constate qu'il y a une usure de l'âme, parce que les gens voudraient bien se remettre à vivre, et que la vie n'est pas que biologique, elle est essentiellement psychologique, et là, on est altéré actuellement.
Une usure de l'âme, vous dites. Alors, j'en viens à l'écriture d'un livre, hein, puisque notre invité aujourd'hui est Guillaume Musso qui est avec nous. Par exemple, écrire un livre ou un journal, peut-être une thérapie en ce moment, un bon outil vers la résilience.
Alors, L'écriture est un incontestable facteur de résilience. C'est pas une thérapie, mais c'est un facteur. C'est-à-dire que j'ai vu l'émission de Bunel sur Camille Kouchner. Elle était d'une force mentale extraordinaire parce qu'elle avait écrit. Je pense que si on l'avait interrogée avant qu'elle ait écrit, ou bien elle aurait eu la gorge serrée, elle n'aurait pas pu dire un mot, ou bien elle aurait éclaté de cris ou de larmes. Or là, elle a été d'une force étonnante parce que elle avait maîtrisé son monde intime en se préparant, en s'entraînant par l'écriture. Et ça, c'est un précieux facteur de résilience.
Je rappelle que Camille Kouchner a écrit La Grande Des Familiers et elle raconte l'histoire d'un inceste au sein de sa famille. Boris Cyrulnik, dans votre dernier ouvrage, Des âmes et des saisons, aux éditions Edier Jacob, vous nous expliquez à quel point le milieu dans lequel nous évoluons, environnement, entourage, a un impact sur la construction de chacun, et ça commence d'ailleurs dès la conception. Selon vous, on ne doit pas séparer le corps et l'esprit. Ça veut dire, pour soigner nos âmes, il faut nous reconnecter à la nature et soigner aussi nos relations à l'autre ?
Voilà, c'est exactement ça. L'individu est une notion occidentale qui est certainement abusive. La personne n'est pas séparable de son milieu, au contraire même, elle est imprégnée, elle est construite par son milieu. Notre corps est un carrefour de pression écologique. Notre taille, nos hormones sont déterminées par les pressions du milieu. Et notre esprit est un carrefour de récits. Alors dans les récits, il y a les récits des écrivains, les récits des historiens, des journalistes, des psychologues, et notre âme et notre esprit est rempli des récits des autres, donc je pense que l'individu est une notion abusive, on est un morceau de milieu, naturel, le climat, les pressions toxiques, et un carrefour de pressions spirituelles et de pressions verbales. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle l'individu, mais en Orient ou en Afrique, on a beaucoup moins cette notion. On pense que le groupe est plus important que l'individu qui n'est pas autant valorisé qu'en Occident.
La résilience, Guillaume Musso, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup et qui apparaît souvent.
Oui,
hein,
moi, en fait, je lis Boris Cyrulnik depuis 15 ans. Au début, en fait, je lisais vos ouvrages, monsieur, pour construire en fait mes personnages, parce que les personnages de romans, vous savez, c'est des personnages ordinaires confrontés à des situations qui les dépassent et donc qui sont au bord du gouffre et qui vont devoir aller au bout d'eux-mêmes. Et donc vos livres me donnaient toujours voilà des pistes pour construire mes personnages. Et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait vos livres aussi m'aidaient à me construire moi-même, notamment, effectivement, vous mettez souvent l'accent sur le fait que l'art comme moyen, effectivement, de garder la trace de la blessure pour inventer autre chose, ce que vous dites souvent. Et ensuite, quand j'ai eu des enfants, voilà, je me suis aussi souvenu de tout ce que j'avais lu dans vos livres, avec aussi, voilà, avec toujours cette dialectique entre nature et culture, entre inné et acquis, et avec un message plutôt positif, voilà, rien n'est jamais totalement perdu, mais pas du tout un message béat, parce qu'il intègre, voilà, la génétique, la science, donc voilà. Et votre dernier livre, Brosse un portrait, oui, qui est une histoire très longue, puisqu'on a une sorte d'histoire de l'humanité depuis la préhistoire, en jetant effectivement des ponts sur le futur.
Des âmes et des saisons, aux éditions Odile Jacob. Boris Cyrulnik, ce que nous lisons, par exemple, un Musso, peut avoir un impact profond sur ce que nous devenons ?
Mais bien sûr, je pense que les écrivains ont un rôle majeur dans la construction de la société. Émile Zola, au XIXe siècle, a transformé la condition des ouvriers. Les ouvriers ne travaillaient 15 heures par jour au fond des mines, ne voyaient presque pas le jour et mouraient de silicose vers la cinquantaine. Et Émile Zola leur a signifié, en vous réunissant, en cherchant à comprendre ce qui se passe, un ouvrier qui savait lire lisait les pages des Zola après le travail dans un café et les ouvriers commentaient. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais après tout, on pourrait vivre autrement qu'en étant enchaîné au fond des mines. Et ça a été le point de départ d'une représentation de soi qui a revalorisé les ouvriers. Et je pense que Gabriel Musso fait partie de ces hommes, de ces écrivains qui peuvent transformer la réalité. Parce que la réalité, c'est ce qu'on construit. C'est pas ce qui est, c'est ce qu'on voit. Et à ce moment-là, il change la vision sur le malheur, comme beaucoup d'écrivains, hein, il change la vision sur le malheur, on comprend mieux ce qu'on doit affronter, et c'est un précieux facteur de résilience.
Merci Boris Cyrulnik.
Merci.
Guillaume Musso, c'est votre journal inattendu, pendant lequel on découvre aussi vos goûts musicaux. Vous aimez ça ?
Kiss
Jarrett, encore From Tokyo.
Oui, qui est aussi comme Philip Glass. D'ailleurs, c'était Kiss Jarrett qu'à la fin, je voulais laisser le fameux message sur le répondeur. Je vais le faire maintenant parce qu'en fait, Kiss Jarrett a annoncé le 20 octobre dernier, effectivement, qu'il arrêtait de jouer après deux AVC. Et moi, voilà, je voulais lui dire combien cette musique a été importante pour moi, combien elle m'a accompagné, combien j'ai adoré l'écouter, aller le voir en concert, même lorsqu'il était un peu bougon, puisqu'il a eu Kiss Jarrett en concert. Parfois, il s'en va avant la fin, si quelque chose ne lui plaît pas. Donc c'est assez, mais c'est pour moi c'est la bande originale de mes livres depuis 20 ans. Donc ce compagnonnage important pour moi.
Dans un instant, une petite surprise pour vous, Guillaume Musso, quelqu'un que vous connaissez bien et que vos lecteurs connaissent aussi. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL avec Guillaume Musso et Ophélie Meunier. Le journal inattendu de Guillaume Musso
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Finalement, une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après.
C'était mieux après de Calogero. C'est une de vos chansons préférées.
J'aime beaucoup.
C'est le message de cette chanson, s'il vous plaît.
C'est oui, entre autres, c'est vous savez, ça me fait un peu penser au concept grec qui est le kéros. Le kéros, c'est ce moment dans la vie où finalement il faut pas laisser passer sa chance. Et je pense qu'on a tous dans une vie deux trois moments comme ça où il faut qu'on agisse, qu'on aille. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être une décision, et je trouve que cette chanson montre bien ça.
C'était mieux après.
Vous étiez prof d'économie, vous vouliez devenir écrivain, vous avez écrit un livre et en effet, vous avez constaté que c'était mieux après. C'est ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Depuis des livres, il y en a eu donc 18. Et pour vos lecteurs habitués, il y a un personnage qui revient de temps en temps comme un clin d'œil. C'est Jacques Bartoletti.
Exactement.
Eh bien, le vrai Jacques Bartoletti formidable. Est avec nous. Bonjour Jacques, bienvenue.
Bonjour. Bonjour
salut.
Guillaume.
Salut Jacques.
Alors
ça
c'est
va
salut ouais. Entre les deux parce qu'en fait Guillaume
on est cousins.
Jacques Bartoletti n'est autre dans la vie que votre cousin.
Ouais.
Jacques, au-delà d'être un personnage clin d'œil de certains romans de Guillaume, dans la vie vous êtes biologiste médical et Guillaume fait régulièrement appel à vous pour se documenter sur les questions de santé qu'il aborde dans ses livres. Alors comment ça se passe vos échanges, votre collaboration entre cousins ?
Eh bien j'ai la chance d'avoir souvent les pitchs des romans et chaque fois qu'il y a des questions de santé, il fait appel à moi pour savoir si c'est cohérent, si ce qu'il va écrire dans son roman est crédible scientifiquement. Mais au-delà de ça, Guillaume, c'est mon cousin Germain, mais c'est aussi mon filleul, puisque j'étais son jeune parrain. Et depuis toujours, j'ai la chance. C'est une chance et une malchance aussi, puisque très souvent, je suis moins surpris que les autres. Ils vendent la mèche avant. Et donc, comme je connais les éléments du pitch, je suis moins surpris par les histoires. Mais cette collaboration me touche beaucoup et ça me fait vraiment plaisir qu'il continue, après toutes ces années, à toujours me demander mon avis.
Mais Jacques, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie. Il a 7 ans de plus que moi. C'est mon parrain. Et quand j'étais petit, il m'amenait au cinéma. Il me donnait plein de conseils. Il a fait vraiment partie des gens qui ont fait que j'ai aimé la fiction. Toujours bienveillant. Ça a toujours été un modèle de réussite dans les études. Mais de réussite cool. C'était le type qui à la fois réussissait à être bon élève, à faire des études brillantes, mais à être cool, à être sympa, à pas se prendre la tête, à avoir une famille plus tard, puis des enfants super stables. Enfin voilà, ça a toujours été voilà une sorte de phare, de modèle de vie réussie.
Bah, vous qui avez grandi donc avec lui, Jacques, qui est le Guillaume que vous connaissez et que nous, on ne connaît pas forcément? Est-ce qu'une petite anecdote d'enfance ou d'adolescence vous vient en tête?
J'ai pas vraiment d'anecdote qui revient, mais quand on regarde les photos, Guillaume, c'était un petit blond, un peu timide, qui dont on avait vraiment envie de s'occuper. Et moi, j'ai toujours... étant plus âgé que lui de quelques années, hein, de 7 ans, j'adorais discuter avec lui. Je sais que forcément, on a toujours une influence sur les gens qu'on aime qui sont un peu plus jeunes. C'est très gentil à lui de dire que j'étais son modèle, mais aujourd'hui, la notoriété qu'il a, elle est vraiment méritée.
Et d'ailleurs, vous, quel regard vous portez sur cette réussite constante qui dure depuis 10 ans cette année?
C'est une immense fierté pour nous. C'est une immense fierté pour toute la famille et pour moi encore plus, parce que je suis son parrain. Comme on dit chez nous, souvent, on essaye de souffler sur ses filleuls. Et j'espère que j'ai soufflé des ondes positives. La surprise, elle a été au début, quand il a été publié, parce que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. On savait qu'il écrivait, mais quand il a été publié la première fois, ça a été une grande fierté. Mais derrière, par son travail, il a réussi à toujours avoir une constance que aucun écrivain de ma connaissance n'a eu, d'aucun écrivain contemporain. 10 années de suite avec les meilleures ventes de livres,
c'est exceptionnel.
C'est juste mérité. C'est exceptionnel et
mérité. Merci. Selon Jacques. Merci Jacques Bertoletti, le vrai, en attendant de vous retrouver peut-être dans un prochain roman.
Oui, c'est déjà prévu. C'est prévu. Je sais déjà où.
Merci Guillaume Musso.
Merci, c'était très agréable. Merci.
La vie est un roman. Votre dernier livre est disponible aux éditions Kalman Levy et bientôt en livre de poche sur du Keith Jarrett, ça vous ressemble.
Parfait.
Et puis aussi une réédition de Skidamarink, votre tout premier roman. Toutes les émissions du journal inattendu sont à découvrir ou redécouvrir en replay sur l'application RTL. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel, numéro consacré à Leonardo DiCaprio. La semaine prochaine, mon invité Plantu. Très bon week-end à tous sur RTL et à samedi prochain, 12h30.
Le journal inattendu sur RTL.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.